RFJ Info.
Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. La crise du coronavirus affecte fortement les activités de l'hôpital du Jura. La JU a dû reporter les opérations non essentielles et va déposer une demande de chômage partiel pour certains secteurs. Le tissu économique jurassien durement frappé par la crise du coronavirus. Le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, Pierre-Alain Béret, nous livrera son analyse en direct. L'avenir reste à déterminer pour la ferme du Rombois à Boncourt. La commune a décidé de conserver le site qui pourrait se transformer en logement de vacances ou en centre de thérapie animale. Météo, le soleil va continuer à nous accompagner cet après-midi. Quelques nuages sont toutefois annoncés en altitude. Le week-end de Pâques s'annonce globalement ensoleillé et doux. C'est le paradoxe de la pandémie de coronavirus. L'hôpital du Jura est en passe de faire une demande de chômage partiel. L'agence télégraphique suisse l'annonce ce matin. L'établissement a dû recentrer son travail pour faire face au cas de Covid-19. Plusieurs activités tournent ainsi au ralenti. Les précisions de Mathieu Schaffner.
Les opérations médicales non essentielles ont été purement et simplement interdites par les autorités fédérales durant cette pandémie. Cela concerne en premier lieu les consultations ambulatoires. De nombreuses opérations sont aussi touchées par cette décision, ce qui signifie qu'elles ont été rayées de l'agenda et reportées à plus tard. Les activités de physiothérapie et d'ergothérapie ne sont pas non plus épargnées, selon le responsable de la communication de la JU, Olivier Garda. Et il ne faut pas oublier que la population évite de plus en plus de se rendre dans les hôpitaux par peur du Covid-19. Conséquence donc, la charge de travail est en baisse, une partie du personnel a pu être réaffectée, notamment dans la lutte contre le coronavirus, mais cela ne concerne pas l'entier des effectifs.
La mise au chômage partiel est ainsi bel et bien à l'étude au sein de l'hôpital du Jura. On retrouve Mathieu Schaffner.
À l'étude, c'est le terme exact. Aucune demande formelle n'a pour l'heure été déposée. Elle devrait l'être rapidement, selon Olivier Garda. Les discussions se poursuivent, ce que le service jurassien de l'économie et de l'emploi confirme. Mais le cas est complexe. L'hôpital du Jura est un établissement para-étatique. Il n'y a pas de directive claire de la Confédération dans ce cas précis. Le service de l'économie et de l'emploi appelle de ses voeux une unité de pratique nationale. Pour lui, le pire serait que les cantons prennent des décisions différentes. Il a aussi des discussions sont en cours pour avoir un retour de la Confédération. L'hôpital du Jura n'est pas le seul établissement suisse. Dans ce cas, les hôpitaux vaudois ont déjà fait des demandes de chômage partiel. Il en va de même dans les cantons de Lucerne, Zoug, Uri et Schwyz. Des cliniques privées ont lancé la même démarche à Genève et Bâle.
Le point ce midi sur l'état de santé de l'économie jurassienne face à la crise du Covid-19. Le gouvernement a annoncé hier que 1700 entreprises du canton avaient déposé un préavis de réduction d'horaires de travail. Près de 18 000 salariés sont actifs dans ces firmes, ce qui représente 40% des emplois dans le Jura. Pour évoquer la situation, Raphaël Chalvera, nous recevons en direct le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura.
Bonjour Pierre-Alain Béret.
Bonjour.
D'une manière générale, comment se porte l'économie jurassienne à ce jour? Ses reins sont-ils encore solides?
Alors les reins solides, on verra. Je pense que oui, nos entreprises sont résistantes, résilientes, mais la situation aujourd'hui est quand même encore toujours très difficile pour de nombreux acteurs économiques. Tous ceux qui sont frappés par une interdiction d'exercer, les commerces non alimentaires qui sont toujours à l'arrêt, et on sait depuis hier que ça sera au moins jusqu'au 26 avril. Il y a aussi un certain nombre d'entreprises industrielles qui n'ont pas repris encore leur activité. Mais je dirais qu'on est passé un peu dans une deuxième phase maintenant, après le choc qui est survenu il y a un mois. On est maintenant dans la phase qui sera celle de la reprise progressive de l'activité.
Vous avez parlé de commerce, de certaines industries. Ce sont les secteurs les plus touchés?
Alors, les secteurs touchés sont très très larges. C'est ça aussi qui caractérise cette crise. Elle n'est pas concentrée sur un seul secteur d'activité. Pratiquement toute l'économie est touchée. Mais effectivement, l'industrie l'est particulièrement. Le commerce de détail non alimentaire, tout ce qui tourne autour du tourisme, de la restauration, de l'événementiel. Et puis, il faut quand même dire aussi qu'il y a un certain nombre d'activités qui restent fortes dans certains secteurs en lien avec la santé, par exemple, y compris dans l'industrie. On a vu récemment ces exemples de sociétés jurassiennes qui produisent des composants pour des respirateurs, par exemple. Et là, Heureusement, il y a une forte activité dans ces secteurs-là. Malheureusement, ce ne sont pas la majorité de nos entreprises qui sont actives dans ces domaines.
Vous évoquez une deuxième phase, ça veut dire que des entreprises reprennent leur activité, mais de manière progressive. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bon, clairement, des entreprises se remettent gentiment en route avec 25 personnes chez certains, une cinquantaine peut-être la semaine prochaine, principalement pour traiter des encours qu'elles avaient encore avant la crise. Cette reprise, évidemment, elle est encore parfois un peu chaotique parce qu'il arrive que des fournisseurs n'aient eux-mêmes pas encore repris leurs activités ou que les clients fassent défaut. Il y a évidemment peu de visibilité aussi pour les prochains mois, et ça c'est une des grosses difficultés. Mais surtout, je crois, ce qu'il faut dire ici et ce qu'il faut souligner, c'est que cette reprise progressive, elle doit se faire avec des mesures de sécurité qui soient très poussées. Et pas plus tard que hier, on avait encore un comité de la Chambre de commerce avec nos membres en vidéoconférence. Évidemment, on ne peut pas se réunir. Et puis, on a parlé justement de cela. Et moi, je dois dire que je suis vraiment impressionné par les mesures qui sont mises en place au sein des entreprises. Des désinfectants, bien sûr, des bacs de décontamination lorsque des outils sont utilisés par plusieurs employés, des mesures aussi pour que les portes à l'intérieur des ateliers soient tout le temps ouvertes, que les gens soient quittes de toucher des poignées, par exemple. Même des fois, des chaînes de production qui sont élargies. On laisse plus d'espace pour que les gens aient plus d'espace pour travailler. Et puis, tout ça, ça se fait aussi en parfaite collaboration avec les services cantonaux. Les entreprises sont aussi demandeuses pour pouvoir vérifier que les mesures mises en place soient bien les meilleures.
Sur le plan politique, maintenant, comment est-ce que vous jugez l'action de la Confédération à ce stade et surtout, peut-être, quelles sont vos attentes pour la sortie de crise ?
Alors, jusqu'ici, je crois que nos autorités ont vraiment géré la chose de manière optimale et il faut le souligner. C'est facile de critiquer, mais quand il y a des situations de crise comme celle-ci, je crois qu'on doit faire bloc et se rendre compte que pour nos autorités, que ça soit au niveau fédéral ou cantonal d'ailleurs, c'est aussi très difficile. Pour nous, ce qui importe maintenant, effectivement, c'est qu'on puisse se projeter dans cette phase de reprise, que nos autorités donnent le plus de visibilité possible sur comment ça va se dérouler, quel sera le calendrier, avec quelles règles, que l'on sache si possible comment les choses vont se passer, parce que il y a un élément essentiel quand même hein, maintenant, c'est que on doit redonner confiance, ou en tout cas ne pas faire perdre le peu de confiance qui reste encore. C'est un élément essentiel pour que l'économie reparte. On le sait, quand les gens n'ont pas confiance, eh bien ils deviennent frileux, ils consomment pas, les entreprises n'investissent pas, et je crois que là nos autorités ont un rôle vraiment essentiel à jouer, et on attend qu'elles continuent de jouer ce rôle.
Peut-être un mot sur les indépendants, c'est peut-être là que le bas blesse en termes de soutien.
Absolument, là on n'est toujours pas satisfait des mesures qui ont été prises par la Confédération. On attend une meilleure prise en compte des indépendants d'une part, mais aussi des entrepreneurs qui sont salariés de leur propre entreprise. Pour ces deux catégories de personnes, les mesures qui ont été proposées par la Confédération sont mieux que rien. Certes, mais à notre avis, elles doivent encore évoluer. Et notamment, on demande un élargissement des APG à tous les indépendants. Pas seulement ceux qui ont dû fermer leur commerce sur une décision politique, mais aussi ceux qui, par la force des choses, se retrouvent aujourd'hui sans travail, simplement parce qu'ils n'ont plus de clients en lien avec cette crise. Et donc là, on attend vraiment encore des efforts, je dirais, de la part de la Confédération. Et on reste mobilisé aussi avec nos partenaires nationaux pour relayer ces préoccupations-là.
Et puis le commerce local qui attend, hein, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, de pouvoir rouvrir ses portes. Quand il pourra le faire, est-ce que tout sera comme avant ?
Alors le commerce local, c'est pour nous un grand sujet de préoccupation, on va dire, parce que c'est un secteur d'activité qui connaissait déjà avant la crise des difficultés structurelles, en lien notamment avec le tourisme d'achat, en lien avec les achats en ligne. Et moi, ce qui me frappe depuis quelques semaines, c'est qu'on lit et on entend beaucoup de prises de position partout dans la presse, au niveau politique, et monsieur et madame tout le monde aussi sur les réseaux sociaux, pour soutenir le commerce local, pour consommer local. Il y a également des initiatives très concrètes qui ont été prises, par exemple pour offrir des rabais sous forme de bons d'achat dans les commerces locaux. Alors nous évidemment que On salue tout ça, mais on espère vraiment que ça va une fois se traduire dans des fêtes, parce que les bonnes intentions, ce n'est pas ça qui nourrit les commerçants. Maintenant, il faut véritablement qu'à la fin de cette crise, quand les commerces rouvriront, les gens passent de la parole aux actes, aillent dans les commerces régionaux, parce que sinon, on sera les premiers à se plaindre qu'il n'y a plus d'offres commerciales dans notre région. Et ça, évidemment, on ne le souhaite pas. Donc moi, je souhaite véritablement aussi que l'on puisse s'engager pour cette cause. C'est ce que fait la Chambre de commerce. Et qu'une fois la crise passée, eh bien, tout le monde se rappelle de ces belles paroles et aille véritablement dépenser de l'argent dans nos commerces locaux.
Pierre-Alain Berret, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura. Merci, belle journée.
Merci à vous.
Et toujours dans le domaine de l'économie, les entreprises surendettées ne seront plus protégées dès le 20 avril par la suspension générale des poursuites et les vacances des tribunaux. Le Conseil fédéral préfère miser sur de nouvelles mesures pour éviter une vague de faillite face à la crise du coronavirus. Le gouvernement estime superflu de prolonger le délai fixé au 19 avril et prépare des mesures ciblées. Il a chargé le département de justice et police de proposer une réforme des instruments concernant la protection du capital, l'assainissement et le sursis. Les tests sérologiques représentent un enjeu majeur à la sortie d'une pandémie pour éviter de reconfiner tout le monde en cas de réplique. Le procédé permet de voir si une personne a développé des anticorps. Une start-up chaudfonnière, Adamant Inotech, associée au Centre suisse d'électronique et de microtechnique, dispose d'une solution qui est prête. Une simple piqûre au bout du doigt suffit pour prélever un peu de sang et le résultat sérologique est connu une ou deux heures plus tard. La chef du secteur des biocapteurs à l'antenne du XEM à Lens dans les Grisons, Sylvia Generelli.
Le développement de la plateforme de base est quelque chose qui est établi déjà depuis quelques années. Le travail qui a été fait là est déjà utilisé. Ce qu'on est en train de faire avec Adamant, c'est de développer un système qui va être utilisé pour le Covid-19 et ensuite aussi pour autres types de virus comme la SARS par exemple, ou la grippe saisonnale. Ce que nous, on prévoit, c'est plutôt d'utiliser ce style de mesure après la pandémie, vraiment quand on aura très très probablement une deuxième vague de Covid, avoir une manière de détecter si quelqu'un doit vraiment rester à la maison ou pas, parce que comme on le voit maintenant, de laisser tout le monde à la maison a des impacts dans l'économie, mais aussi en fait dans la santé des gens.
Le projet de test sérologique neuchâtelois n'est pas le seul en course. Son avantage, c'est qu'il est prêt. Le système sera prochainement testé sur un échantillon de patients en Chine où la start-up dispose de laboratoires. Les procédures d'essai et d'homologation s'annoncent toutefois longues à l'échelle mondiale. Sylvia Generelli espère pouvoir produire les tests en 2021 en alliant les technologies suisses et chinoises.
Notre principe, ce serait d'avoir sûrement une production en Chine, mais aussi une production en Suisse. On essaye de développer ici en Suisse des fournisseurs de différentes parties de la technologie parce qu'on sait que quand même en Suisse, la qualité de la technologie est plus haute de ce qu'on peut s'attendre en Chine en général. Il y a des technologies ou des fournisseurs qui ne peuvent pas être trouvés partout dans le monde. Pour le marché européen, on essaye quand même de travailler avec des fournisseurs suisses.
Un dossier réalisé par Serge Jubin. Deux cosmonautes et un astronaute se sont envolés aujourd'hui pour la Station Spatiale Internationale. Ils laissent derrière eux une planète bleue en proie à la pandémie de coronavirus. L'Américain Chris Cassidy et les Russes Anatoly Ivanishin et Ivan Wagner ont décollé comme convenu du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan à bord d'une fusée Soyouz. On revient dans la région avec la ferme du Rombois à Boncourt qui se cherche un avenir. Le bâtiment situé au-dessus de la tour de Milandre appartient à la commune. Il était à vendre depuis une dizaine d'années. Les citoyens ont toutefois décidé de conserver ce bien depuis l'assemblée communale du mois de décembre. La municipalité a d'autres projets pour ce site en bordure de forêt. Des ateliers participatifs doivent être mis sur pied pour imaginer une nouvelle affectation. Le maire de Boncourt, Lionel Maître.
C'est un site assez idéal pour faire de l'accueil de voyageurs qui utilisent la mobilité douce parce qu'ils peuvent profiter aussi de la commodité, d'être un petit peu en retrait, puis profiter de la nature. Donc pour ça, je pense qu'il a une certaine vocation. La deuxième idée aujourd'hui qu'on a pour ce site, elle vient d'Elodie Guerta qui s'est proposée à l'Assemblée communale de faire un centre de thérapie animale. Donc ça s'y prête également bien puisqu'il y a déjà une grange et des terrains aux alentours qui peuvent accueillir des animaux. Puis les animaux qu'elle pensait, c'était des lamas. Après, il y a encore un dernier point, c'est que Aujourd'hui, il y a un appartement et ça, ben, on peut aussi considérer que l'appartement peut être utilisé en tant que tel. Donc aujourd'hui, c'est les trois affectations que l'on voit. Par contre, dans le projet participatif, peut-être qu'il y aura encore d'autres idées. Et puis, le but, c'est d'être ouvert un maximum.
Vous écoutez RFJ, il est 12h30.
Mon quotidien change. Je témoigne.
Et RFJ vous donne la parole en cette période de coronavirus. Que faites-vous à la maison et comment la pandémie a modifié votre quotidien? Vous nous le dites par message vocal et nous diffusons le témoignage d'une personne de la région tous les jours à la fin du journal. On écoute aujourd'hui le témoignage d'une auditrice.
Je m'appelle Anne-Françoise et aujourd'hui j'ai été mise au défi par ma belle-fille pour témoigner sur mon quotidien depuis le confinement. Habitant un tout petit village où il n'y a plus ni commerce, ni poste, ni école, le confinement ici, c'est toute l'année. Mais tout a changé depuis que la plupart des gens sont à la maison. Et le village n'a jamais été aussi vivant, même si les contacts sociaux se font à distance. Pour moi, la vie continue, mais au ralenti, alors que d'habitude, tout est minuté. Et moi, à qui on disait souvent qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, maintenant j'en ai et je l'apprécie. Ce qui me coûte le plus, c'est de ne plus pouvoir voir mes enfants, mes petits-enfants et mes amis. Mais heureusement, la technologie nous permet de garder les liens, qui seront encore plus forts après le confinement, car l'éloignement rapproche. Je voudrais remercier mes enfants et beaux-enfants qui nous font les courses et s'assurent que nous allons bien et ne manquons de rien. Merci à tous les jeunes qui s'engagent pour les aînés. Merci à tous ceux qui travaillent pour que nous ne manquions de rien ou pour nous soigner. Et de tout cœur avec ceux qui sont touchés par la maladie. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.
Et le numéro pour adresser votre message vocal, c'est le 079 812 20 20.
Merci et bel après-midi à vous, François Comte. Là, on passe à la météo et dans quelques secondes, il y aura deux naissances à vous annoncer. C'est toujours un temps ensoleillé malgré quelques développements nuageux, avant tout dans les franches montagnes, que prévoit Météo News avec un mercure qui grimpe jusqu'à 18 degrés à 1000 mètres aujourd'hui et 22 en pleine. Demain, le temps restera bien ensoleillé, le ciel sera souvent sans nuages. On nous annonce quand même le développement de quelques cumulus au fil des heures, ne donnant pas d'activité et il fera entre 19 et 23 degrés demain sur notre région.